at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Une Heure et des Pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite annonce de promotion. Pixel Up vient de lancer son financement participatif sur la plateforme Ko-fi. Vos dons mensuels ou ponctuels permettront de payer l'hébergement des podcasts sur PodCloud, les frais d'assurance et toutes les autres dépenses de fonctionnement de l'association. Alors, si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir, vous trouverez le lien vers notre page Ko-fi sur nos réseaux sociaux et sur la page du podcast de l'émission. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Anna, Mehdi, Léa et Tizona. Bonne année à vous toutes et tous, comment allez-vous?
Bonne année.
Pour moi qui commence pas très bien, je me suis cassé le poignet, mais c'est pas grave. On va remonter la pente, je le sens bien.
D'accord. Bon, bah bonne rémission. Une bonne rémission aussi à Calypso qui ne peut hélas pas être avec nous. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Et ce mois-ci, nous recevons Cassie, Technical Narrative Designer indépendante. Elle a travaillé sur Caravan Sandwich et elle a rejoint récemment le tout jeune studio Rebel Pixel. Elle est aussi Sensitivity Reader et on en saura un peu plus lors de son entretien. Salut Cassie!
Hello! Merci beaucoup!
Mais de rien, comment vas-tu?
Super!
Cool! Tout de suite, sans plus attendre, nous écoutons Tizona, dont les chroniques porteront sur l'accessibilité dans le jeu vidéo, et aujourd'hui, plus précisément, sur Prince of Persia, The Lost Crown.
Eh bien, bonjour. Qui dit début d'année dit souvent en rétrospective un peu déprimante sur ce qu'on a réussi à accomplir ou non. Pendant l'année précédente, vous vous rappelez des trop nombreuses actualités peu réjouissantes du jeu vidéo qui ont jalonné 2024, en laissant l'industrie dans un état assez catastrophique, il faut le dire. Cependant, pour garder une note un peu plus positive, j'ai parcouru les différents jeux parus durant 2024 pour dresser un peu un état de l'art de l'accessibilité dans le jeu vidéo, et mine de 2024 ne s'en sort pas si mal. Si bien que j'ai prévu aujourd'hui de vous parler d'un exemple tout particulier que l'on pourrait considérer, même si c'est peut-être un grand mot, comme une sorte d'innovation. Car tant qu'à faire, autant célébrer les petites victoires de l'industrie, telles que des tentatives d'inclusivité à une époque où proposer un personnage féminin jouable ou blasphème à un mode de difficulté peut être perçu comme une prise de position sociale radicale, dangereuse, qui vous blackliste de certaines communautés. Bon, sur ce dernier point, c'est pas forcément regrettable, mais ça peut quand même avoir son lot de conséquences désagréables. Alors pour donner un petit peu de contexte, même si vous n'êtes probablement pas sans l'ignorer, il y a un segment assez important du public joueur qui est concerné par des problématiques de handicap. L'organisation Able Gamers communiquait en 2021 que 20 à 30% des joueuses possédaient un ou plusieurs handicaps. Et avec la croissance et l'élargissement constant du public joueur, on peut supposer que ces chiffres sont à la hausse depuis, puisqu'on n'a pas de chiffres officiels pour les dernières années avant jusqu'à 2021. Pour enfin rentrer dans le vif du sujet, donc j'aimerais vous parler du jeu qui a particulièrement retenu mon attention pour 2024 et ce depuis sa sortie. Donc comme ça a été annoncé, il s'agit de Prince of Persia The Lost Crown, paru début d'année 2024, édité par Ubisoft. Le jeu reprend l'identité de plateformeur 2D qui caractérisait les nombreux opus de la série, agrémenté d'un kit de compétences nerveux et habillé d'un level design qui s'inscrit dans la pure tradition des dits Metroidvania. Si Ubisoft n'excelle pas dans la gestion de son personnel ni de ses projets, hélas comme nous avions pu en parler lors de la dernière émission, le studio fait depuis plusieurs années figure de très bon élève dans le domaine de l'accessibilité. Alors je ne parlerai pas ici de Star Wars Outlaws sorti également l'année passée, mais ce dernier présente un panel d'options d'accessibilité extrêmement complet, dont la précieuse mais rare possibilité de n'avoir aucune information sonore qui n'ait pas de retranscription visuelle et ou écrite. Alors pour revenir à Prince of Persia, les Metroidvania, on peut s'y perdre, parfois très vite, surtout quand ce n'est pas un genre de prédilection. Pour les personnes ayant des conditions cognitives affectant l'orientation et ou la mémorisation, comme les personnes qui souffrent d'aphantasie, donc l'aphantasie c'est une condition cognitive qui confère de l'impossibilité à créer des images mentales, la progression dans ce genre de jeu peut être d'autant plus fastidieuse, voire totalement bloquante, et cela en dépit de la qualité du level design. Pour pallier cela, Prince of Persia The Lost Crown propose, parmi d'autres options d'accessibilité, disons un petit peu plus classiques, deux features. La possibilité de personnaliser l'affichage de la carte du jeu de manière plus ou moins complète, et surtout, la mécanique qui va nous intéresser, celle des fragments de mémoire. Alors ces fragments de mémoire, ce sont des artefacts que le héros récupère en jeu, et qui permettent de prendre des captures d'écran d'emplacements spécifiques, et de les associer, directement de les épingler, à des endroits de la carte. Ainsi, dans le jeu, la joueuse peut capturer n'importe quel écran. Ça peut être un passage bloqué qui nécessite un outil non acquis, un coffre inaccessible, un challenge de platforming qui n'est pas encore faisable, et la possibilité de consulter ces captures à n'importe quel moment. Ça va limiter les allers-retours chronophages et parfois assez peu probants quand on n'est pas équipé du bon outil. Ça a globalement un impact positif. Et ça réduit le sentiment de perte, qui est quand même un grand facteur de frustration, et surtout ça encourage l'exploration. Alors, malheureusement, ce système possède ses limites. Il n'est possible au fil de l'aventure que de posséder 5 fragments de mémoire au maximum, donc 5 captures que l'on peut faire. Autrement dit, sur la carte d'un Metroidvania qui est quand même assez dense, ça fait relativement peu. Cependant, ça n'en demeure pas moins assez novateur pour le genre, et ça contribue à accompagner toute typologie de joueuse, valide ou non. Alors j'imagine que des râleurs ont dû dire que ça reniait l'essence des Metroidvania, mais je suis pas certaine pour autant que beaucoup de gens trouvent ça amusant de tourner en rond et faire des allers-retours sans fin lorsque l'on est perdu. Et encore une fois, c'est comme toutes sortes d'options de ce genre, si on n'en veut pas, eh bien on ne l'utilise pas. Cette feature, qui est toute nouvelle pour le genre, inspirera, je l'espère, de nombreux autres jeux, sans forcément que ce soit aussi limité dans le nombre, ni lié obligatoirement au lore, comme c'est le cas dans Prince of Persia, ni même lié au genre, en fait. Je fais des petits coups de coude discrets à Silksong et à Metroid Prime 4, si jamais. À titre de conclusion, j'aimerais rappeler que l'accessibilité, quelles que soient ses formes, est primordiale quand on souhaite qu'un jeu fournisse la meilleure expérience au plus grand nombre de joueuses valides ou handicapées, et continue à proposer davantage d'inclusivité. 2024 a apporté son lot de jeux proposant un panel assez riche et varié d'options d'accessibilité, allant, comme je l'ai dit, de Star Wars Outlaws à The Plucky Squire, en passant par Dragon Age Vanguard, par exemple Call of Duty Black Ops 6 était aussi un bon exemple, en passant par de plus petits jeux comme Pine Earth, et avec une mention honorable pour Another Scrap Treasure, un jeu qui se veut Souls-like et qui propose l'option de remplacer l'épée du vaillant crabe que l'on joue par un pistolet le rendant dévastateur et invincible. Ce qui est quand même assez particulier, mais assez original pour être relevé. Ainsi, j'espère que 2025 préservera cette lignée et proposera davantage de jeux accessibles à tous, ainsi que, pourquoi pas, de futures innovations dans le domaine.
Merci Tizona. C'est maintenant au tour d'Anna qui va nous présenter le thème qui va parcourir ses futures chroniques, à savoir le jeu vidéo à travers les pratiques des joueurs et des joueuses.
Merci beaucoup. Alors, on parle du jeu vidéo comme on parle d'une œuvre d'art. On parle de ceux qui le produisent, on parle de sa conception, de son écriture, de son esthétisme, de son histoire, de son lore et même de ses personnages. On parle de développeurs, de développeuses, on parle d'artistes et tout cela à juste titre, bien évidemment. Mais parlons aussi de ceux qui la coécrivent, de ceux qui la rendent encore plus riche qu'elle ne l'est déjà, de ceux et de celles qui font du jeu vidéo un palimpseste. C'est-à-dire une sorte de papyrus sur lequel on écrit puis réécrit une histoire, sur lequel on va dessiner et redessiner à nouveau. Ce papyrus sur lequel on gratte pour effacer les écrits du passé et produire un nouveau manuscrit, un nouveau parchemin. Et n'est-ce pas là tout le propre du jeu vidéo ? En effet, je veux vous parler du jeu vidéo comme d'une œuvre collective à quatre mains, à laquelle les joueurs et les joueuses contribuent. D'une œuvre destinée à être vécue par un public. Et par le mot « vécu », je veux vous parler d'appropriation du jeu vidéo, de détournement et de personnalisation. Il y a tellement de manières de jouer à un jeu. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement jouer à un jeu vidéo ? Eh bien, c'est précisément la question à laquelle j'aspire répondre durant cette saison, en vous parlant des publics du jeu vidéo et de ces joueurs et de ces joueuses qui s'approprient le jeu, son lore, son univers, sa narration. J'aimerais vous parler de ceux et de celles dont l'expérience de jeu ne se construit pas uniquement dans le jeu, mais aussi à l'extérieur de celui-ci, à travers les communautés, les fandoms. J'aimerais, durant cette saison, vous parler des pratiques et des usages du jeu vidéo par ses publics et de toutes ses manières de jouer indirectement via le streaming, l'e-sport, le modding, le speedrun. En effet, Il y a autant de manières de jouer au jeu qu'il n'y a de types et de profils de joueurs et de joueuses. Et d'ailleurs, chers auditeurs, chères auditrices, vous aussi, vous en faites partie. Parler de la diversité des pratiques, c'est aussi parler de toutes les raisons qui nous poussent à aller jouer. Que ce soit pour le fun, pour s'amuser avec des amis, ou pour tout simplement se détendre et oublier le monde qui nous entoure l'espace de quelques instants. Je voudrais vous parler du jeu vidéo comme je vous parlerai d'une histoire qui se prolonge au-delà du livre. Car c'est en ceci, chers auditeurs, chères auditrices, que tout l'enjeu de mes propos réside. Je veux vous parler de cette expérience de jeu qui se prolonge au-delà de la console et qui se retrouve sur Twitch ou sur YouTube, dans les événements e-sportifs, dans les compétitions en ligne, dans les let's play ou dans les vidéos de gameplay. Je veux vous parler de l'évolution de ces pratiques, des joueurs et des joueuses, en passant par la façon dont elles se matérialisent et produisent une diversité de contenus sur le web, dans les réseaux, sur Internet. Et pour cela, j'aspire à ce que mes réflexions puissent vous montrer que le jeu ne se cantonne pas seulement au divertissement, mais qu'il tend à devenir un objet hybride qui oscille entre le spectacle et la spectacularisation, par le biais de l'e-sport, un objet culturel et cultuel, un espace de rencontre et d'échange, un sport, un outil de création et de co-création, un outil de promotion, de marque, de vêtements, de films, un instrument politique, parfois utilisé à mauvais escient, et un vecteur de message. Le jeu vidéo est un moyen de laisser à l'autre écrire sa propre histoire. Je terminerai ces quelques mots en vous conseillant de ne pas voir le jeu vidéo comme un livre dont le joueur serait le lecteur, mais plutôt un livre non achevé dont on laisserait au joueur la plume pour venir écrire sa suite et, pourquoi pas, sa fin.
Merci Anna. Léa, tu souhaites réagir ?
Oui, absolument. C'est la transition parfaite pour ma chronique où je vais aussi parler un petit peu de la participation des joueurs dans la mise en place de la lore, donc spoiler. Mais c'est aussi, ce qui m'intéresse aussi pas mal, c'est que avant le jeu vidéo, il y avait aussi le jeu de rôle papier où il y avait aussi cette même culture de collaboration de l'écriture. Et je me demande à quel point le jeu vidéo s'est aussi nourri de cette culture-là. Dans cette idée d'écrire de façon collaborative une histoire, de tordre des règles du monde ou des règles du jeu pour pouvoir créer collectivement une expérience commune. C'est un sujet que je trouve personnellement très intéressant.
Cassie, tu souhaitais réagir aussi ?
Oui, j'aime beaucoup ce sujet. Ouais, c'est un truc qui me touche aussi pas mal, genre, de voir même... Même voilà, ça peut être tout simplement sur les réseaux sociaux, voir les autres personnes interagir sur le jeu qu'on aime, c'est toujours bien, même petites interactions comme ça, et ça fait penser à quel point aussi on aime bien ces petites anecdotes, par exemple, souvent pour les MMO je dirais, où un joueur qui a été un peu connu est un peu intégré dans l'histoire, ou un personnage de la vraie vie est intégré dans l'histoire, donc il y a des gens de la communauté qui rejoignent. L'histoire et tout ça, c'est souvent des trucs qui marquent beaucoup de monde, j'ai l'impression.
Vas-y Anna, on t'écoute.
Oui, bah, tout à fait. En fait, ce que j'aime bien dans ce sujet-là, c'est que en fait, on met l'accent un peu sur ce que les gens font du jeu vidéo quand ils y jouent, mais aussi du coup quand ils n'y jouent pas uniquement. Et comment est-ce qu'ils arrivent à créer en fait une expérience qui va vraiment sortir en fait du jeu pour aller sur les réseaux, etc. Je trouve ça assez intéressant de voir en fait comment on peut interagir. Autour d'un jeu, alors que du coup on n'y joue pas forcément. Je trouve que c'est juste fascinant de voir ce qu'on en fait. Et à titre d'anecdote, ça me fait penser à toutes les personnes en fait. Moi j'ai beaucoup consommé les Sims de manière détournée. Je trouvais ça super intéressant de voir les personnes qui créent des histoires ou des séries à partir du jeu et qui du coup faisaient une sorte de feuilleton un peu à la manière de Dallas, de les Sims, qu'est-ce qui se passe, etc. Et du coup ça me fascine beaucoup. Donc c'est un sujet que j'aimerais creuser avec vous durant cette saison.
Merci beaucoup Anna. Et Léa, c'est à toi. Tu vas aborder dans tes chroniques ton cœur de métier, à savoir la narration. Et comme tu le disais tout à l'heure, Anna t'a fait une transition parfaite, puisque aujourd'hui tu vas nous parler de la lore.
Absolument. Donc du coup, je vais commencer cette première chronique tranquillement, au commencement, avec donc ce mot, quatre petites lettres en anglais, intraduisibles en français. Larousse propose bien tradition, coutume, et même science et savoir. Mais dans le petit monde vidéoludique francophone, en revanche, on tenterait peut-être un histoire ou même contexte historique. Mais je pense qu'on s'accordera tous à dire ici que ça ne retranscrit pas vraiment ce qu'on conçoit, nous, joueurs plongés dans un monde virtuel, quand on parle donc de lore. Comme moi, ce mot vous évoque peut-être un patchwork de petits bouts d'histoire stratégiquement placés sur le chemin du joueur sous forme de pages de journal, d'enregistrements audio, d'emails à hacker, de graffitis sur le mur, de descriptions d'objets qui nous permettent par accrétion de reconstituer la plus grande histoire, celle du monde qu'on arpente. On apprend par exemple, en ramassant un casque sur un ennemi dans Elden Ring, que cette armure des chevaliers du Creuset qui aurait servi Godefroy, le premier seigneur d'Elden, détiendrait le pouvoir du Creuset de la vie, la forme primordiale de l'arbre-monde et dont l'ornementation de la hache serait la marque du chevalier Ordovis. On ne sait pas qui est Ordovis, on ne sait pas ce qu'est le Creuset de la vie, on n'y comprend pas grand-chose, on reconnaît peut-être un ou deux concepts, mais à part ça, mystère et boule de gomme. Le monde, celui d'Elden Ring, mais le nôtre aussi, qui nous entoure, est souvent incompréhensible. Et c'est la raison pour laquelle on s'y intéresse, parce qu'on veut le comprendre, et on veut surtout comprendre quelle est notre place dedans. Pensez à l'Iliade, l'Odyssée, la Titanomachie, Gigantomachie, au mythe de la fondation de Rome ou d'Athènes, qui expliquent tous, d'une façon ou d'une autre, qui sont les peuples qui véhiculent ces histoires, quelle est leur identité propre, d'où ils viennent, et établissant au passage leur légitimité à occuper un territoire et à exister, tout simplement. Mais ce qui est étonnant avec la lore, en tant qu'élément de jeu, en revanche, c'est que c'est essentiellement de l'anti-jeu. On nous demande souvent d'arrêter de jouer pour écouter ou pour lire quelque chose qui n'aura pas vraiment d'incidence sur le déroulement de la partie, même pas du tout, et dont l'intérêt réside dans cette capacité à immerger les joueurs qui sont sensibles dans un monde où nous, en tant que développeurs, on essaye de leur aménager une place. Et c'est d'ailleurs, plus généralement, souvent comme ça que la narration est appréhendée et conçue dans le jeu vidéo, comme une interruption, un arrêt, quelque chose en dehors de l'expérience de jeu. Et pourtant, narration, comme lore, voit ses pouvoirs décupler lorsque le joueur y prend une part active. Ça peut paraître un peu plus surprenant pour la lore, mais comme Anna l'a déjà mentionné dans sa propre chronique, elle a vocation naturellement à dépasser ses auteurs pour être appropriée par les spectateurs. Les joueurs donc s'investissent à cœur joie dans les fandoms, produisent des pages et des pages de wiki, contribuent parfois à construire directement de façon organique et collective quelque chose de nouveau. On peut donc penser aux creepypasta comme les backrooms, qui seraient une dimension parallèle habitée de monstres dans laquelle on pourrait glisser en tombant sous la map, comme dans un jeu vidéo, coécrite donc par des centaines d'internautes anonymes. Ou encore, avant ça, la fondation SCP, avec encore ici son bestiaire de monstres surnaturels que le joueur doit souvent échapper dans les jeux que cet univers inspire. Selon Wikipédia, en octobre 2020, le site cumulerait près de 11 000 rapports originaux de toutes langues confondues, dont SCP-096, qui serait une créature humanoïde de grande taille, d'ordinaire docile, mais qui pourchassera et tuera toute personne ayant vu son visage, ou bien SCP-426, qui serait un grippin auquel il est impossible de faire référence sans s'exprimer à la première personne. Nos joueurs modernes ne sont finalement pas si différents des poètes grecs, qui étaient avant tout des conteurs dont les histoires étaient soufflées par les muses, donc chacun d'entre eux avait sa propre version de tel ou tel mythe ou de tel ou tel héros, et ils s'adaptaient toujours à leur public. La contradiction était souvent courante et même acceptée. L'Égide d'Athéna est décrite dans une partie de l'Iliade comme étant précieuse, inaltérable et pure, doux, pendille, sans franges merveilleusement tressées, et ailleurs, elle est décrite comme étant une effrayante égide aux poils mouvants où s'étalent déroute, discorde, vaillance et poursuite, glaçant les cœurs, et qui porte en son centre la tête de Gorgo, ce monstre épouvantable, terrible, grimaçant, signe de Zeus, le porte-égide. Et je trouve que ça fait très Elden Ring comme description d'objet. Mais voilà, la lore aujourd'hui, ça se monétise. Et devient la propriété non plus seulement d'auteurs, mais de corporation. Il suffit de voir le grand succès de la série Arcane et la nouvelle stratégie de Riot qui consiste à bétonner sa lore pour en faire quelque chose de plus cohérent, dont on pourrait en tirer des séries, des livres, films, etc. Tout est calculé et rien n'est laissé au hasard. La lore doit être rentable. Et je suis bien placée pour témoigner qu'on ne rigole plus avec la propriété intellectuelle, parce que j'ai passé la majorité de ma carrière sur des projets à l'univers préécrit. Je peux donc vous dire, par exemple, que Nintendo micro-contrôle chaque petit détail de ses personnages, de la couleur d'une salopette au brillant d'un globe oculaire. Il contrôle comment et quand un personnage peut prendre la parole, s'il peut sauter. Spoiler, seuls les jeux Nintendo peuvent avoir Mario qui saute. Vous ne pouvez pas faire sauter Mario dans Mario Rabbids Sparks of Hope. Et on devait leur fournir des rapports hebdomadaires extrêmement détaillés, et on pouvait rester sans nouvelles d'eux pendant de longues semaines. Ce n'était pas très agréable comme situation. Et aujourd'hui, je travaille sur la licence Dune, et bien que Legendary soit beaucoup moins difficile à gérer, il faut souvent défendre des choix artistiques et on doit souvent se plier à des exigences stratégiques. Par exemple, on n'a pas de Fremen dans le jeu, en tout cas pas à la sortie, parce que au moment où il devait être sorti, Dune partie 2 n'était pas encore sorti, le film, et donc du coup, les Fremen n'avaient pas encore été révélés, et Legendary avait insisté qu'on ne pouvait pas les voir dans le jeu. Donc ça réduisait un petit peu certaines de nos possibilités. Mon mandat, donc, est de respecter un cahier des charges très précis, en bref, un peu moins d'espace créatif, moins de tolérance pour le flou, pour la contradiction encore. Et pourtant, je pense que le génie d'Elden Ring, c'est précisément de ne pas avoir révélé ce que J.R.R. Martin avait écrit pour le jeu. Et c'est ce manque, cet espace négatif, que les développeurs se sont retenus sagement de combler, qui permet aux joueurs de s'approprier cette lore. Et il suffit de voir la montagne de théories fumeuses et de vidéos spéculatives pour comprendre que les gens aiment pouvoir interpréter, échanger, contribuer à leur façon à l'édifice. Et c'est donc ma conviction qu'en matière de lore, il faut toujours garder une place pour l'imagination du joueur et apprendre à lâcher prise.
Merci Léa. Anna, tu souhaitais réagir?
Tout à fait. Alors déjà, merci beaucoup Léa, je trouve que c'est vraiment absolument passionnant. Ça a été une parfaite, effectivement un parfait approfondissement du propos que j'avais amené. Tu as utilisé un mot qui je trouve est vraiment très parlant, c'est celui de corporation. Je trouve que c'est exactement là tout l'enjeu en fait des jeux et de la manière dont les joueurs s'en approprient, c'est qu'ils vont vraiment chercher à faire corps avec lui et qu'ils vont aller chercher en fait à approfondir des sujets, des détails, des éléments comme tu le dis à juste titre. Ce qui est assez impressionnant, c'est que en fait il y a une vraie tension quand on parle de détournement ou d'appropriation de jeux vidéo, c'est de savoir en fait jusqu'où les développeurs, les producteurs sont prêts à laisser en fait les joueurs prendre le jeu et justement essayer de faire corps avec lui. Et ça amène en fait, enfin je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut laisser en fait une part d'imaginaire aux joueurs, je pense que ça amène vers des choses absolument extraordinaires. C'est que énormément de joueurs vont construire des choses à partir du jeu, vont aller créer du contenu, enfin une diversité de contenu vraiment infinie dont on n'a pas forcément conscience et connaissance. Et je trouve que c'est vraiment toute cette partie en fait qui sort un peu du jeu, mais qui finalement vient l'enrichir, vient le nourrir et vient créer en fait des communautés qui est absolument fascinante à étudier et à en parler. Donc je suis très très contente que tu aies abordé ce sujet aujourd'hui et je pense qu'on va avoir une saison extraordinaire avec toutes ces idées qui fusionne.
Ben, je l'espère aussi.
Sans aucun doute.
Mehdi, tu souhaitais prendre la parole?
Ouais, bah déjà, ouais, c'était super intéressant. Et en plus, j'ai appris personnellement qu'on disait la lore. J'ai toujours cru qu'on disait un lore. Donc, je serais moins bête. Et ça me fait aussi penser à Disco Elysium. Parmi tous les jeux auxquels j'ai joué, c'est l'un des seuls jeux où j'ai eu cette sensation de vertige face à un lore qui me paraissait infini. J'avais pris en plus l'aspect encyclopédiste, je m'en souviens, et à chaque... Il y avait beaucoup de lignes de dialogue qui étaient débloquées, j'avais l'impression, grâce à cette compétence. Et enfin, ça, ouais, je trouvais ça fou. C'était comme si un deuxième jeu se créait un peu à côté du premier, un peu dans notre tête. Enfin, ouais, ça me paraît un peu lointain maintenant, parce que ça fait un moment que je l'ai fait, mais ouais, je trouvais que le lore de Disco Elysium était assez fou et inexploité aussi du coup, mais donc un peu frustrant, mais en même temps fascinant, ça m'a vraiment fasciné.
Léa, tu souhaites réagir à ce qu'a dit Mehdi ou tu souhaites prendre la parole par la suite?
Réagir. Oui, Disco Elysium est vraiment fascinant à ce niveau-là. L'écriture, on peut même peut-être parler d'une surécriture en ce qui concerne Disco Elysium, de l'univers est absolument titanesque. C'était un monde assez fascinant. Et en ce qui concerne le terme lore, je sais pas, je pense que comme beaucoup de termes d'anglais, masculin, féminin, c'est un petit peu comme le préfère la personne qui en parle. Donc je crois que je suis dans la minorité, mais pour moi, voilà, je l'utilise au féminin.
Un Game Boy, une Game Boy, le débat continue. Maintenant, il y a l'or dedans, c'est bien. On en rajoute tous les jours. Cassie, tu souhaitais réagir?
Oui, ça, je voulais réagir sur la chronique qui est aussi un petit peu sur Disco Elysium, que je trouve genre, c'est un exemple encore plus spécial, parce que du coup c'est très drôle que du coup le créateur Robert Courvitz, je crois, avait écrit un bouquin, il avait écrit un livre entier sur l'histoire et sur le lore, mais en fait il est accessible dans très peu de langues, c'est que des traductions faites par des fans, et du coup en fait entre guillemets il y a des réponses mais elles sont très inaccessibles, du coup entre guillemets on n'est pas obligé de se les faire un peu soi-même, parce que elles existent, on peut les avoir si jamais on veut vraiment les avoir, mais elles sont tellement inaccessibles au final que c'est plus simple de se les trouver soi-même, et du coup l'exemple est encore plus rigolo, je trouve.
Ingrid, vas-y, on t'écoute.
Pour aller un petit peu dans ce sens-là, qui est un petit peu, on va dire, transverse avec le côté corporation et le côté accès-inaccès, il y a aussi toute la série des Nier Dragon Guard, donc, qui officiellement ont quelques jeux, mais qui officieusement, en fait, le ou la lore, se déploie depuis des années, non seulement sur les jeux, sur des nouvelles, traduites ou non, sur même des coques d'ordinateur qui ont été vendues, il y a du lore dessus, lors de concerts d'une édition à une autre, il y a des lignes de lore en plus, lors de pièces de théâtre qui ont été jouées exclusivement au Japon, qui changent d'une version à une autre, et donc pareil, d'une part, il y a eu effectivement une appropriation des fans qui ont constitué une énorme base de données en essayant de rassembler le plus de choses possible, mais la corporation, donc Square Enix, derrière, a fini par strike donc la plus grosse base de données qui a été faite il y a quelques mois, et demander sa fermeture complète. Et en fait, c'est là que les fans se sont rendus compte en fait, que peut-être ce qui constitue 70% peut-être de ce qui constitue l'univers a complètement disparu du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'on se rend compte de ce qu'on a avec les jeux, mais c'est avec ce genre d'événement qui est arrivé, donc la disparition du travail de fans qui s'est étalé sur plusieurs années, qu'on se rend compte effectivement que tout ce qu'il y a autour, c'est massif, et ça contribue non seulement à enrichir les univers, les lores de chaque jeu, mais aussi en fait le travail des communautés qui se forment autour. Et effectivement, c'est là où on se rend compte que les jeux ne sont, en tant qu'objets ludiques, ne sont pas tout seuls et ne sont des fois pas forcément la plus grande des forces motrices concernant le lore en lui-même.
Anna, tu souhaites rebondir ?
Oui, en fait, j'utiliserais juste un terme qui, je pense, résume bien ce que tu disais. Du coup, c'est on parlerait vraiment, je pense, à juste titre, de mémoire collective, peut-être pour parler de tout ce que les joueurs et les joueuses vont vont garder en fait à propos des jeux, vont créer une sorte de bible, une sorte vraiment d'expertise, de connaissances très pointues d'un univers, etc. Et c'est vrai que cette matière-là, en fait, elle est vraiment très précieuse parce qu'elle évolue au fil du temps. Elle est souvent tellement précieuse en fait que je pense que les producteurs s'en inspirent parce qu'ils savent qu'il y a une vraie recherche en fait assez assidue de l'univers, de sujets, enfin. De petits points, en fait, qui permettent de garder la cohérence d'un jeu, d'un univers. Et parfois, je dirais même que c'est peut-être beaucoup plus pointu du côté des communautés, du côté des fandoms, que même du côté des producteurs.
Première pause musicale avec Ice Core, composée par Dean Evans pour l'OST de Green Lantern sur Super NES. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et tout de suite, l'entretien avec l'invité.
Oui, donc on reçoit Cassie, freelance technical narrative designer. Salut Cassie.
Salut.
Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui dans Une heure et des pixels. Donc je l'ai dit, t'es freelance technical narrative designer, donc t'as beaucoup de casquettes. Est-ce que pour rentrer directement dans le vif du sujet, tu peux nous dire à quoi ressemble une de tes journées de travail en ce moment?
En ce moment, on est sur... je travaille sur une pré-production surtout, donc vraiment un tout début de projet où on a encore de la programmation à faire... avant que les choses marchent et que... les choses plus narrative design marchent. Du coup, là, je suis surtout sur le côté tech. par exemple, je vais faire en sorte de... là, pour un prototypage, de programmer éventuellement les outils et améliorer les outils pour pouvoir intégrer des dialogues, intégrer des cinématiques, ce genre de choses directement dans le moteur. Ou alors, justement, implémenter tout ce qui est... ces dialogues et tout ça, et toutes les choses liées à la narration et un petit peu au gameplay dans le moteur, avec du coup ce qui avait été programmé. Donc voilà, mettre les différentes quêtes qu'on a designées dans le jeu pour qu'elles soient jouables. Donc je travaille surtout sur Unreal 5 en ce moment et en général, du coup, ouais, c'est surtout du blueprint et beaucoup de Google Sheets et de points CSV que je fais bouger de partout pour intégrer tout ça. Et sinon, parfois, là, je suis un peu plus sur de la documentation et des choses, voilà, le côté un peu plus narrative design où je vais écrire les dialogues, les améliorer, continuer d'avancer les documents pour le world building ou pour écrire les personnages.
Et justement, c'est laquelle de toutes ces compétences qui est venue la première et qui a amené les autres dans ton parcours ?
Je dirais que c'est plutôt la programmation. Au début, entre guillemets, le côté narrative design, je sais pas trop, j'avais un peu peur de m'y mettre, entre guillemets, professionnellement, même si j'aimais bien ça depuis le début, je me disais, oh là là, ça fait beaucoup à faire, je voyais, entre guillemets, beaucoup de personnes qui s'orientaient par là aussi, donc ça faisait un peu peur. Et ben, pendant les études, souvent, je me retrouvais à vouloir faire un prototype, ou alors pour des... Bah, voilà, se mettre à avoir besoin de programmation, alors que les personnes autour de soi veulent pas forcément le faire, veulent pas forcément le faire. Et du coup, ouais, je suis très vite mise à prototyper, à apprendre la programmation, le C-Sharp surtout. Et du coup, ouais, c'est la programmation et l'intégration, c'est ce qui est venu vraiment en premier, surtout ça. Ouais.
On l'a pas dit, mais t'es encore une jeune travailleuse dans le milieu du jeu vidéo, mais t'as quand même travaillé sur Caravan Sandwich, donc l'année dernière, je crois. Bah, est-ce que tu peux nous en parler, justement, de cette expérience ?
Oui, j'ai travaillé sur Caravan Sandwich, du coup, en 2023. Ça n'a pas duré très très longtemps, c'était quelques mois, mais c'était un peu sur la grosse période où justement toutes les bases étaient déjà là et qu'il fallait vraiment implémenter. Donc on avait plein de cadres qui étaient déjà designés par Marie et Pauline qui étaient passées, Pauline était encore là, Marie était déjà partie, donc Pauline Marlière et Marie Newman. Si je prononce ça bien, excusez-moi. Et du coup, donc les quêtes et les personnages étaient déjà tout écrites quand je suis arrivé. Du coup, c'était vraiment tous les outils pour intégrer étaient aussi déjà là et fonctionnels. Du coup, c'était vraiment se rentrer dans l'histoire et rentrer dans les personnages et dire allez maintenant voici le personnage, intègre les dialogues, faire en sorte que la quête soit jouable du début à la fin avec du coup tous les outils qu'on avait. C'est surtout ça le travail pendant les premiers mois là-bas, mais du coup c'était j'ai pu voir un peu tous les personnages, je me suis surtout occupé des quêtes secondaires. La plupart des quêtes secondaires, surtout en fin de jeu, c'est en partie moi qui avais commencé à les intégrer. Il y a eu beaucoup de changements entre temps parce que je suis parti entre le moment où je suis parti et le moment où le jeu est sorti, il y a eu bien 9 mois, quelque chose comme ça, 9-10 mois. Donc ça a bien changé. Mais ouais, c'était un peu les prémices du coup du technical narrative design parce que j'avais le côté vraiment intégration. Je faisais pas de programmation parce que tout était déjà là et on avait beaucoup de programmeurs avec nous. Donc c'était surtout de l'intégration et sur les derniers mois, une fois que toutes les quêtes qui avaient été designées ont été intégrées, là c'était un peu le plus où j'ai commencé à vraiment écrire un peu les crumbs, des petits bouts de narration que le personnage principal va dire dans son coin. À la base, on avait une idée de qu'en gros le personnage principal recevait des SMS des autres personnages du jeu. Et du coup, des moments en se baladant, on recevait en gros des messages privés de d'autres personnages qui commençaient à parler avec toi, qui du coup rajoutaient aussi de l'interaction, de la caractérisation. Donc j'ai un peu plus écrit de ce côté-là sur la fin, donc il y avait un peu plus le côté aussi narrative designer où j'ai pu réfléchir à la manière de faire passer du contenu plus que juste de l'intégration.
Justement, ce côté équipe sur Caravan Sandwich, on se l'est dit un petit peu avant l'entretien, il t'a permis d'explorer le sensitivity reading. En quoi ça consiste tout d'abord et comment est-ce que tu l'as appliqué à la fois aux jeux vidéo mais aussi en dehors ?
Oui, je vais préciser vite fait le sensitivity reading. Du coup, c'est quand une personne est chargée de faire un peu du consulting sur une œuvre par rapport à un personnage ou alors à une situation pour voir si elle n'est pas offensante ou s'il n'y a pas des stéréotypes ou des biais par rapport à certains personnages qui ont été faits. Donc par exemple, moi pour mon cas, en tant que personne queer, du coup, si j'en fais, ça va être voilà, justement pour savoir s'il n'y a pas de stéréotypes homophobes qui vont passer dans un personnage, dans une situation, ce genre de choses. Et justement, bah, sur Caravan Sandwich, un peu plus légèrement, on a eu plusieurs discussions sur des choses, sur certains personnages, en disant « Ah tiens, ce personnage vit telle chose, toi, à ton avis, comment est-ce que ça se développerait, comment est-ce qu'on développerait ce côté-là ?» Du coup, voilà, sur certains personnages, on s'était mis à plusieurs à dire « Ah bah tiens, on pourrait intégrer tel message queer et tout ça. » Du coup, il y avait un peu ce côté-là, sensitivity reading, même si c'était entre guillemets pas pour ça que j'étais là, ce qui est un autre sujet. Mais en tout cas, ouais, j'ai pu entre guillemets y goûter. Et après, ouais, j'ai quand même un peu continué le sensitivity reading, notamment sur un roman actuellement.
Et on l'a dit en te présentant au tout début d'entretien, t'es freelance, et t'es en plus à peu près au début de ta carrière professionnelle. Est-ce que tu rencontres des difficultés et lesquelles, si c'est le cas?
Ouais, un petit peu. Bah, c'est assez compliqué dans le sens où, bah justement, on n'a pas l'habitude de voir des gens en junior, et en vrai, c'est pas une très bonne chose non plus. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui entre guillemets peuvent forcer à prendre du freelance pour avoir du travail, et ben vu que c'est compliqué, forcément des fois on s'y lance un petit peu. C'est malheureusement un peu ce que j'ai fait. Là actuellement, voilà, je travaille, mais c'est du mi-temps, enfin, ça dépend des heures et tout ça, et du coup c'est un peu ça, c'est pas la meilleure chose, parce que c'est un peu un jeton un peu important qui peut bien marcher. Et en fait, bah, souvent ce jeton vaut mieux le dépenser après plusieurs années d'expérience, quand tu peux un peu avoir plusieurs projets en même temps. Malheureusement, c'est pas énormément mon cas non plus, et j'ai un peu décidé de cramer le jeton, parce que ouais, c'était un peu une des seules solutions que j'avais. C'était un peu compliqué, donc c'est pas la meilleure chose, et il y a assez peu de connaissances entre guillemets quand on est jeune, de ah, combien est-ce que je peux me payer, combien est-ce que je peux demander d'argent. C'est voilà, et les histoires de droit du travail, encore ce genre de choses, du coup tu peux très vite te faire avoir. Donc j'essaye de me tenir un peu informé de tout ça pour pas trop me faire avoir, mais c'est un peu dangereux, on va dire. C'est pas mal dangereux, et il faut faire attention encore plus quand on débute.
Et t'es donc installé à Lyon, et t'es aussi un peu active, je crois, dans le tissu associatif local du jeu vidéo. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Oui, j'essaye un petit peu. On a de la chance sur Lyon, vu que bah, forcément c'est un peu une grosse ville du jeu vidéo, où on a pas mal d'associations qui font un peu du lien entre les gens et les studios, ben, surtout Lyon Game Dev, qui du coup, ben, voilà, au minimum une fois par mois, organise un peu des meet-up pour faire tout ça. Et j'essaye un petit peu aussi d'organiser un peu moi-même des meet-up pour un peu dans des contextes différents que maintenant les meet-up où il y a 100 personnes le soir, où c'est bruyant, c'est un peu compliqué, c'est vraiment une ambiance bah, after work que pas tout le monde peut accepter, quoi. Donc, j'essaie un petit peu de faire ça. Et à côté, il y a aussi le collectif Sous les Néons, où je suis bénévole, où j'essaie de faire certaines choses. Où, du coup, le collectif Sous les Néons, c'est quelques personnes de l'industrie du jeu vidéo, et aussi des personnes liées qui sont du théâtre, qui essaie un peu de mélanger les deux, de faire des expositions de jeux vidéo dans des lieux culturels. Récemment, il y avait une exposition de jeux vidéo au Musée des Beaux-Arts qui s'est fait, et aussi des soirées qu'on appelle des soirées playformance, qui sont des mélanges un peu de théâtre et de jeux vidéo et de un peu de sur scène. Donc ça peut être un peu, ça peut autant être vraiment genre quelqu'un qui va être plus vidéo essai sur scène avec un peu de travail, que des gens qui sont vraiment issus du théâtre, qui vont vraiment faire qui vont vraiment prendre un rôle ou se tenir sur un thème précis plus théâtral en intégrant du jeu vidéo dedans. Donc on a pas mal de choses, et là notamment on va faire aussi un gros événement pendant 3 semaines qui commence fin janvier dans un gros événement, dans un gros lieu culturel de Lyon, donc avec beaucoup de jeux, avec expositions et d'autres activités liées aux jeux vidéo, donc c'est chouette, ça bouge bien, et c'est sympa de voir entre guillemets du jeu vidéo dans des choses plus proches de la haute culture ou autre chose, quoi.
Et autre manifestation moins associative cette fois, en tout cas manifestation liée aux conditions de travail, c'est le STJV qui a annoncé au moment où on enregistre cette émission, il y a assez peu de temps, un appel à la grève générale de l'industrie du jeu vidéo pour le 13 février. Est-ce que toi, à titre personnel, tu comptes y participer?
Oui, c'est vrai, j'ai vu ça aussi, effectivement. Bah oui, c'est vrai que je suis quand même pas mal intéressé. De mon côté, je suis freelance et tout ça, une boîte de 5 personnes. Malheureusement, mon impact sur mon studio, ça va pas faire grand chose. Mais bah, c'est toujours cool de même si on n'est pas forcément du jeu vidéo, de rejoindre un peu le mouvement et tout ça, parce que ouais, j'ai énormément d'amis qui ont des soucis. Voilà, j'ai des amis à Dournod qui sont en grève actuellement aussi. Par rapport à ça, et ouais, comme ce que j'avais passé sur leur appel, ouais, juste ne pas venir travailler, c'est déjà agir, mais ouais, je ressens, c'est très clair entre guillemets les besoins qu'il y a et les revendications qu'il y a, en tout cas, ouais.
Ouais, on suivra ça, j'imagine, de très près. On continue cet entretien juste après la deuxième pause musicale, et on écoute You and I, composé par Austin Wintory et interprété par Marie-Elisabeth Maglin et Laura Bailey pour l'OST de Straight Gods. Everybody working against me, every idol but for one, violent with apathy. We couldn't reach a resolution, but you and I, I'm queen of the underworld, and you praise you. Something seems familiar about you. Like me, don't have too much to hope for. The rules been fixed throughout the ages, so I have forged a daring path. I would like to make some changes. You see, we can win a revolution. It's time that you kick 'em right back. You've got one big mouth on you, don't you? Yet it's me who's close.
overstayed your welcome.
Time to go home.
Vous écoutez Une Heure et des Pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Cassie pour la suite de l'entretien. Alors la musique que l'on vient d'écouter, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as choisie ?
Oui, elle vient du coup de Stray Gods, donc c'est un peu un jeu comédie musicale. C'était développé par Summerfall Studios, qui est sorti il y a un an et demi, je crois. Et j'aime énormément tout ce qui est jeux musical, enfin les jeux musicaux et jeux de rythme et tout ça. Et celui-là m'est vraiment beaucoup plus parce que je suis un peu dans ma phase comédie musicale en ce moment. Et du coup dire waouh, les OST me marquent. Et là les OST c'est genre les personnages qui les chantent et tout ça, c'était vraiment du coup t'es vraiment bien dans le truc. Et cette musique en particulier, c'est la musique qu'on a, entre guillemets, qui démarre la romance avec un des personnages qui est Perséphone. Donc Perséphone de la mythologie grecque, parce que du coup, le plot du jeu, c'est on se retrouve un peu au milieu de plein de dieux grecs qui nous disent qu'on a commis un meurtre, et c'est un peu de la musique pas de l'énigme, mais de l'enquête. Et voilà, quand vous avez pu entendre la musique, il y a un peu ce côté un peu flirty de Perséphone qui parle de personnage, donc qui est interprété par Laura Bailey, notre personnage. Et c'est que j'aime énormément les comédies musicales et ce jeu-là, j'en parle un peu à tout bout de champ, ça a pas mal forgé. Ce que j'avais en tête pour du visual novel entre guillemets pendant l'année dernière où j'y ai joué.
Ouais, très chouette OST en tout cas. Et pour le reste de l'entretien, je passe la main à l'équipe. Léa, tu avais une question pour Cassie ?
Moi, c'est ce poste de technical narrative designer que j'ai occupé pendant quelques années chez Ubisoft. Il est assez intéressant parce que il est super jeune, il y a encore 5 ans, ça n'existait pas vraiment. Et traditionnellement, la narration, c'était un petit peu cette chose qui arrivait en bout de chaîne. Donc il y a eu un espèce de retournement ces 5-10 dernières années où finalement, on reprend un petit peu, on donne un petit peu plus de place au narrative designer, au writer aussi, pour intervenir plutôt dans la production. Et je trouve que c'est très important parce que la façon dont on conçoit les outils, ça va impacter la façon dont la narration va apparaître dans le jeu. Donc quelque part, designer les outils, c'est déjà, en tout cas c'est mon opinion, faire du game design en fait quelque part. Mais en tout cas, ce que je trouve assez intéressant, c'est que il y a un côté encore un petit peu Wild West où moi qui me plaît plutôt où il y a vraiment un range d'expertise qui rentre dans ce poste où il y a des technical narrative designers qui sont très donc voilà un background beaucoup plus ingénieur programmation et qui donc du coup glisse vers le support de ces moyens-là par affinité. Et puis, il y a ceux qui viennent plutôt du design, comme c'est mon cas, où on est designer, et puis en fait, on est frustré par la façon dont sont faites les choses, et on glisse vers les méthodes d'implémentation, les pipelines, en se disant quand même, faut faire un effort à ce niveau-là, il faut reprendre le contrôle. Et donc voilà, je me demandais comment est-ce que toi tu appréhendes ce métier, si c'est l'aspect technique qui t'intéresse ou l'aspect créatif, est-ce que c'est quelque chose que tu voudras laisser derrière toi plus tard ou tu aimes bien mettre aussi tes petites mains dans le côté intégration.
Oui, ouais, je comprends beaucoup ce que tu dis. Ouais, ça, comme tu disais, ouais, finalement les métiers de tech narrative designer ou tech game designer, c'est assez récent. J'ai l'impression que c'est Ubisoft qui a fait la porte d'entrée en France, entre guillemets. Mais j'aime bien dire que finalement, entre guillemets, on dit que c'est récent. Mais finalement, tous les tafs, toutes les personnes qui ont travaillé en solo dev ou ce genre de choses, bah finalement, c'est aussi un peu ça. J'ai réfléchi à la narration, je l'implémente moi-même et tout ça. Et voilà, comme tu dis, ça peut vite être un peu la guerre où, ok, c'est quoi tes compétences? Ça pareil, moi je me dis, ah tiens, je me retrouve à faire de l'interface. Ah tiens, je me retrouve à faire des cinématiques et de l'animation. Ah, c'est pas ce que j'avais en tête, c'est pas non plus trop mes compétences, mais on se retrouve dedans parce que, voilà. Et ouais, c'est encore trop rare de pouvoir se permettre de mettre de la narration en tout début de prod comme ça. Donc, comme tu dis, c'est très chouette. Et de mon côté, bah comme je disais, j'ai commencé entre guillemets à faire de la programmation parce que j'aimais bien ça, mais je m'y étais un peu trop impliqué par défaut. Et quand j'ai commencé à me dire ah merde, mais en fait ouais, la narration, je peux vraiment m'y investir plus que ça dans le travail et tout. Bah ouais, j'ai envie de vraiment garder sur la narration parce que bah c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus. Mais j'aime bien garder une main sur le moteur pour mettre mes propres caméras peut-être des fois, ce genre de choses. Et après ça dépend des outils et tout ça, et de la production aussi. Mais ça fait du bien de voir le truc enfin marcher en moteur et jouable, c'est quelque chose de cool, et encore mieux quand du coup on a pu l'écrire soi-même un petit peu. Donc il y a quelque chose de que j'aime énormément dans le fait de m'en occuper jusqu'à qu'il soit tout peaufiné.
Tizona, tu souhaitais intervenir?
Oui, je voulais rebondir donc sur un des aspects que tu as abordé. Donc tu fais du sensitive reading checking, qui me semble personnellement primordial, qu'est-ce que soit le projet, mais surtout dans des projets qui vont viser des sujets sociaux, des questions de représentation, même si ça reste, je pense, un peu trop marginal à l'heure actuelle et peut-être accessoire aux yeux de pas mal de boîtes qui ont peut-être l'impression déjà de bien faire. Mais à titre personnel, est-ce que tu penses qu'il y aurait des manières ou des process qui pourraient être systématisés au début des productions, avec quand même une passe, on va dire, QA au courant de la prod, avec l'avantage peut-être de un peu former les équipes autour de certaines problématiques? Ou est-ce que tu penses que ça reste important de pousser ces efforts-là de sensitive checking vers la fin des prods pour éviter que bah, y ait trop de choses qui aient changé, et que ça puisse vraiment, on va dire, corriger des éléments à un instant où ça reste assez proche du livrable, quitte à ce que toutes les personnes de l'équipe ne soient plus là? Alors globalement, est-ce que tu penses que c'est scientific reading, a sa place en tant que formation pour les équipes créatives, ou est-ce que tu penses que l'intérêt principal il repose plutôt sur le produit, sur l'impact que ce genre de démarche peut avoir sur le produit final et la réception qu'auront les consommateurs, consommatrices à l'arrivée? Alors je ne sais pas du tout comment toi ça s'est intégré dans tes interventions. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, je suis désolée. Si.
Bah, moi, je dirais que la réponse, c'est genre... C'est un peu des deux, mais mauvais côté des deux. Dans le sens où, est-ce qu'il faut mettre le poids sur les équipes? Bah, je dirais que non. Parce que bah, les gens ne sont pas forcément là pour ça. Du coup, bah, forcément, quand tu fais de la narration après... C'est bien d'avoir un maximum de background pour faire le minimum d'erreurs, quoi, et pas tomber très vite dans des choses un peu terribles à relire. Et en même temps, on peut pas trop se permettre de tout mettre ça sur le dos des équipes, parce qu'en fait, très vite, le piège qu'il va y avoir, c'est justement, en fait, pourquoi est-ce que je demanderais à quelqu'un qui fait du sensitivity reading de relire mon personnage lesbienne, alors que bah ça tombe bien parce que dans le côté design, eh ben on a une lesbienne, on pourrait lui demander, tu vois. Et du coup bah ça fait que tu mets le poids du sensitivity reading sur le dos de quelqu'un qui était pas là pour ça, et juste parce qu'entre guillemets la personne a le bagage culturel ou autre pour faire ce taf-là par défaut, ce qui est pas forcément tout le temps vrai non plus. Et du coup, ben, le piège, c'est que c'est bien de le dire à l'équipe, d'en parler à l'équipe et que l'équipe soit au courant, mais très vite, on va se retrouver à... En fait, ça sert à rien de faire du sensitivity reading, on va juste piocher dans les gens de la boîte pour le faire, ce qui... c'est pas leur taf, donc leur demandez pas ça. Et de l'autre côté, on peut pas se permettre non plus d'avoir du sensitivity reading que à la toute fin. Parce que justement, bah, quelque chose que j'ai un peu vu aussi sur Caravan Sandwich, c'est qu'en fait, genre, à un moment, j'étais là, on intégrait une quête, et je me disais, attends, mais... Est-ce qu'on parle du fait que cette quête-là, moi, elle me fait penser à, genre, telle situation qui peut être offensante, telle situation qui peut venir d'un trope un peu étrange, un peu stéréotype ou ce genre de choses. Et en fait, bah, on se disait, ah merde, ça fait un moment que cette quête, elle est designée, et c'est que maintenant qu'on met le doigt sur un souci un peu de trope, de, ah bah, ce personnage-là ou cette quête-là, vient d'un stéréotype qu'on veut pas dans le jeu finalement, et du coup on se retrouve alors que la quête elle est sur le point d'être entièrement intégrée, que ah faut tout changer. Du coup il y a énormément de choses et de quêtes dans Caravan Sandwich qui ont été changées vraiment à la toute fin, quand il y avait quasiment plus personne à la production, parce que c'était vraiment la fin de prod, qui en fait bah, si on avait eu un peu de chance et qu'on avait pu se permettre qu'aller un peu plus tôt, ça se serait vu. Donc c'est bien d'avoir des gens un peu au début, des gens un peu à la fin, pour diriger vers les bons trucs, et qu'on base pas 50%, enfin qu'on base pas toute une quête ou 50% de la quête principale sur un stéréotype raté, un trope offensant, problématique ou quoi que ce soit. Et à la fin, pour vous corriger vraiment les coquilles, notamment éventuellement sur du dialogue, où c'est là où il peut y avoir le plus vite, ça peut partir sur des problèmes. Et effectivement, vu que le souci, c'est un peu le truc de, ah, faut trouver quelqu'un qui soit là au début de prod, au fin de prod. Et j'ai un peu d'espoir qu'il y ait peut-être un jour des sortes d'agences. Il y a déjà un peu d'agences de narration qui existent en France aussi, mais ouais, voilà, des agences de narration qui occupent une petite partie sensitivity reading, ou alors des agences de sensitivity reading pour en gros rassembler un joli pôle, pour avoir un joli pool, je veux dire, de personnes qui seraient dispo un peu quand on veut, pour aider les sensitivity readers à avoir du travail et aider toutes les entreprises à pouvoir avoir la personne dont ils ont besoin sans chercher très fort comme c'est nécessaire maintenant, quoi.
Du coup, pour rebondir là-dessus, moi, j'ai définitivement connu cette expérience d'être la seule représentante du genre féminin dans une équipe masculine, et d'avoir un directeur se tourner vers moi sur un point de discussion pour dire « Et toi, Léa, sur cette représentation féminine on est d'accord, hein, c'est pas un problème. » Et puis moi, avec un sourire un peu figé sur le visage, je dis, oui, je pense que ça ira, tout en pensant que c'était pas tout à fait... Enfin voilà, avoir ce côté, tout à coup, on est un peu mis sous pression pour être la caution féminine. En tout cas, ça, dans mon cas, la caution féminine, je connais. Et aussi, ça apporte une autre chose, c'est qu'au final, si on demande, par exemple, à la lesbienne de l'équipe, son expérience, on n'a toujours qu'une seule expérience. Et je suis désolée, mais des gens qui ont des bad takes sur leur propre expérience, il y en a beaucoup, hein. Et donc, du coup, c'est ce que je m'attends presque plus d'un sensitivity reader, c'est de se faire l'agrégation de tout un tas de perspectives sur une identité, et pas juste être « voici mon expérience personnelle, mais voici, je connais bien ce milieu, cette expérience, j'ai discuté avec beaucoup de gens, enfin, on m'a partagé beaucoup d'expériences, et voici le consensus, voici ce que certaines personnes pensent comme ça, certaines c'est plutôt ça, et voilà, faites-en ce que vous voulez. » Et donc, du coup, plutôt de prendre en compte la multiplicité des expériences, plutôt que moi, je le pense comme ça, donc c'est comme ça.
Oui, clairement. C'est pour ça que c'est vraiment un très bon point. Et aussi, bah, ça me fait penser au fait que, ouais, ça, quand t'es dans la boîte et que ton patron te regarde dans les yeux en disant est-ce que je suis raciste? Est-ce que je suis sexiste? Bah, c'est un peu difficile quand t'es employé de le regarder dans les yeux et dire oui, tu es tout ça.
Exactement, donc, exactement.
Forcément qu'au moins, avec quelqu'un qui est sensitivity reader, y a pas de soucis, tu parles pas à ton patron, tu parles pas à quelqu'un supérieur à toi, c'est genre, tu es là pour ça. Tu peux dire tout ce que tu penses, tu peux dire les choses factuelles et des choses comme ça, sans que tu aies la crainte qu'en fait, super, maintenant t'es l'employé qui insulte le patron de tout ça, quoi. Un truc comme ça, quoi. Ça peut vite arriver, ce genre de choses.
Merci Mehdi, merci Cassie pour cet entretien. Et nous passons maintenant au jeu de fin d'émission. Petit changement pour ce mois-ci, puisque nous introduisons un nouveau jeu, comme nous l'avions annoncé l'émission précédente. Nous allons cette fois laisser derrière nous un peu le blind test pour jouer à un jeu qui s'appelle « Qui suis-je ?». L'idée, c'est que chacune d'entre vous a un personnage mystère et que vous devez trouver qui c'est en posant des questions auxquelles on peut répondre, enfin le reste de l'équipe pourra répondre par oui ou par non. Si la réponse est oui, vous avez le droit à une autre question. Si la réponse est non, on passe le tour de parole. En sachant que le thème reste mystérieux, vous devez aussi le deviner. Mais normalement, avec la liste des personnages que les autres personnes de l'équipe sont, vous devriez avoir suffisamment d'indices.
Petit message de la post-production, afin de vous aider, auditeurs et auditrices, à suivre un peu mieux le jeu, voici la liste des personnages qu'incarnent nos participants et participantes. Cassie et Colt Vane, du jeu Deathloop, Tizona et Max Caulfield, du jeu Life is Strange, Mehdi et Max Payne, du jeu du même nom, et Léa et Tim, du jeu Braid. Et nous vous laissons trouver le thème de ce jeu, grâce à ces indices.
Et ce mois-ci, c'est Anna qui s'est occupée de choisir le thème et de choisir les personnages. Je vais donc lui laisser la parole.
Alors, pour cette émission, du coup, je vous ai concocté un petit jeu très particulier. Donc, je me suis amusée à trouver un thème qui me parlait beaucoup et que je vais vous laisser deviner, bien évidemment, avec des personnages que chacun et chacune d'entre vous incarner. Je vous laisse donc la parole pour tenter de deviner qui vous êtes à travers un petit « qui suis-je ?». Donc, je crois que... Alors, je ne sais pas si c'est à qui de commencer, mais celui qui se sont inspirés peut y aller et on fera un petit tour de table pour avoir une idée de qui est qui. Bonne chance.
Moi, je vais commencer, si personne ne se lance. Est-ce que je suis le ou la protagoniste du jeu auquel je suis issue? Protagoniste principale, pardon.
Oui.
Est-ce que je suis un homme?
Non. Est-ce que je suis... une femme?
Non.
Ah.
Est-ce que mon personnage... On va copier. Est-ce que mon personnage est le ou la protagoniste de son jeu?
Oui.
Ok, waouh. Est-ce que je suis plutôt connu pour venir d'un jeu qui est sorti sur console?
Oui.
Ok, plutôt sur console.
Oui. Oui. faut que je vérifie. oui, ok, d'accord.
Ok, d'accord. Est-ce que mon personnage est un personnage féminin?
Non.
Bah, je ferme la marche. Est-ce que je suis une femme?
Non.
Est-ce que mon personnage est issu d'un jeu 2D?
Non. Je vais poser la même question. Mon personnage est-il le protagoniste principal, contrôlé par le joueur du jeu dans lequel il apparaît?
Je crois bien.
Oui,
oui.
Oh. D'accord, oui.
Oui.
Protagoniste donc de jeux vidéo. Est-ce qu'il apparaît dans un jeu triple A?
Non.
Non, d'accord.
Est-ce que mon personnage... est apparu avant 2010?
Non.
Ok.
Est-ce que le jeu dans lequel j'apparais est sorti il y a moins de 5 ans?
Non.
Est-ce que mon personnage est armé?
Non. Est-ce que mon personnage est donc issu d'un jeu indé?
Oui.
Oui. Un jeu de ces 5 dernières années ?
Non.
Non, d'accord, ok.
Donc c'est après 2010. Est-ce que c'est entre 2010 et 2020 que le personnage est apparu ?
Attends, il faut que je vérifie la date exacte. Non, non, non.
Ok, ok, c'est récent. Allez, donc...
Est-ce que je suis un personnage humain ?
Bonne question. Oui.
Normalement, oui.
Oui, tu es humain.
Est-ce que mon personnage est présent dans plusieurs jeux ?
Oui.
À défaut d'avoir une arme, est-ce que j'ai un outil ?
Oui.
Oui.
Est-ce que il y a... Enfin, est-ce que j'apparais dans seulement deux jeux ?
Oui, je crois. Oui.
J'ai un doute. Mais normalement, oui, hein.
Oui, je crois. Je crois que oui.
Je réfléchis. On dit non dans l'oreillette ?
Non.
Bah du coup, c'est...
Oui, si.
Votre incertitude me donne moins de certitude.
Ouais, est-ce que... ta question, c'était est-ce que ton personnage est dans deux jeux, c'est ça ?
Exclusivement dans deux jeux.
Bah je crois que c'est...
Enfin, en tout cas, et le personnage principal de deux jeux.
Dans ce cas, ouais, c'est oui, hein.
Bah si, oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui.
Ok. Est-ce que je suis emprisonné dans ces deux jeux ?
Non.
Zut.
Mon personnage... est-il un humain ? Mon personnage est-il un humain ?
J'arrive pas à répondre. Je pense que oui, mais j'ai...
Oui.
Humanoïde.
Je
crois que c'est humain, oui. Mais c'est juste que j'avoue, j'ai pas joué, donc je peux pas dire.
Ah.
Oui.
Est-ce que c'est un personnage jeune ? Disons, moins de 30 ans ?
C'est très impression.
Je crois.
Physiquement, pas trop.
Est-ce qu'il fait jeune ?
Oh.
Il fait. Enfin, pas moins de 20 ans.
Ok.
Si c'est... ta question c'était est-ce qu'il s'approche. Enfin, tu as mentionné 30 ans.
Ouais, est-ce que c'est un enfant ou un adolescent ou la vingtaine, quoi ? Est-ce que c'est un jeune ? Est-ce que c'est un gamin ?
Non, ce n'est pas un jeu.
D'accord,
non.
Très bien.
Est-ce que mon personnage apparaît dans un triple A ?
Oui.
Donc un triple A sur console. Personnage masculin, on avait dit. Est-ce que mon personnage apparaît dans un jeu de genre RPG ? C'est compliqué vu la définition de RPG. Hein.
Oui.
C'est...
Aventure ouais, RPG, on va plus être aventure RPG ou le RPG c'est petit, c'est plus action.
Aventure RPG.
Oui. Oui. Non. Ah.
Je dirais pas RPG.
Non alors.
Non,
t'as
moi,
raison.
Pas okay. RPG.
Est-ce qu'il s'agit d'un univers plutôt réaliste ou plutôt fantaisiste ?
Plutôt réaliste, hein.
Réaliste.
Ouais, réaliste.
Mm-hmm. Ok, donc un homme sorti il y a plus de 5 ans, univers réaliste. Est-ce qu'il est le personnage principal ?
Oui.
Est-ce qu'il y a des armes ? Enfin, des armes ?
Oui.
Ouais. Est-ce que le jeu est long ?
C'est une...
Aucune. Oui,
c'est long.
Ça dépend,
ouais.
C'est quoi long ?
Ouais, c'est relatif.
Qu'est-ce qui est long pour toi ?
Des dizaines d'heures.
Oui,
à peu près, je dirais.
Ok. Est-ce qu'il sauve le monde ?
Je sais
oui.
pas.
Oui, en un sens, tout à fait.
Je n'ai pas d'inspiration.
Oh, j'avoue, c'est compliqué, là.
Ouais.
C'était pas la meilleure question, hein, mais tout va bien.
Je vais retourner sur les dates, ça va plutôt m'aider. Est-ce que le jeu est paru entre 2015 et 2020 ?
Non.
Est-ce que le jeu dont je suis issu est un jeu à la première personne ?
Non. Ah. Est-ce que j'apparais dans plusieurs jeux ? Dans une série, dans une franchise ?
Je ne crois pas.
Non.
Non.
Ok.
Est-ce que j'apparais dans un jeu multijoueur ?
Oui.
Est-ce que mon jeu... a aussi un mode de jeu solo, qui est le mode de jeu, le plus gros mode de jeu ?
Oui.
Donc voilà, ok. Oh, c'est plus compliqué. Est-ce que mon personnage apparaît dans plusieurs jeux?
Non.
Non.
Je ne pense pas.
Ouais, après c'est un jeu récent, donc pas étonnant. Hop. À vous.
Est-ce que le jeu est paru avant 2010?
Oui.
Oui, okay. Oui, oui.
Est-ce qu'il est sorti sur, sur PlayStation 2?
Oui.
Ok. Est-ce que mon personnage apparaît dans plusieurs jeux?
Oui.
Oui.
C'est pourquoi j'ai rien. Est-ce que mon personnage est toujours aujourd'hui l'objet de... Enfin, est-ce qu'il est bien ancré dans la pop culture? Est-ce qu'il réapparaît dans des jeux? Bon, c'est deux questions en une, mais...
Non, la pop culture...
ouais, très large aussi.
Dans la pop culture, moi, je dirais... C'est une bonne question, ça.
Récemment? Définir récemment?
C'est ça, ouais. Je t'entends pas récemment.
Récemment, les trois dernières années?
Non, je crois pas.
Pas trop.
Ok.
Non.
Moi, je pense pas non plus. Quoique... Ah, quoique... Non. Quoique non. Non, non.
Est-ce que je fais partie d'une série de jeux en général, au-delà des deux jeux dans lesquels j'apparais?
Oui.
Est-ce que dans la série de jeux dans laquelle je suis, les autres protagonistes, le protagoniste ou les autres protagonistes sont armés et pas moi?
Non.
Non.
Non. Est-ce que le jeu dans lequel mon protagoniste apparaît est peut-être considéré comme un jeu narratif?
Je ne pense pas.
Non, très bien.
Ouais, il n'est pas connu pour ça.
Ouais.
Ça commence à être compliqué. Est-ce que mon personnage est connu pour être dans une exclusivité Sony?
Mm-hmm. Oui.
Ok, waouh, ok. Est-ce que mon personnage est vu à la première personne? Est-ce qu'il y a une vue à la première personne de mon personnage dans le jeu?
Oui.
Oui.
Ok, est-ce que ce jeu est réalisé en France?
Oui.
Ok, est-ce que ce personnage est armé?
Oui.
Oui.
Est-ce que ce personnage parle beaucoup dans le jeu? Est-ce qu'il est voiced?
Oui.
Oui.
Ok, est-ce que ça a été réalisé à Lyon?
Oui.
Oui.
Ok, est-ce que ce personnage... il est bloqué dans une boucle temporelle?
Oui,
tout à fait.
Oui, est-ce que ce personnage est dans le jeu Deathloop?
Oui.
Maintenant, faut que je me réfléchisse pour le nom du personnage. Non, j'ai un trou. C'est... Je crois qu'il s'appelle Colt. Est-ce que mon personnage s'appelle Colt?
Oui, il s'appelle Colt.
Yay!
Bravo!
Bravo, tu es Colt Van.
Je savais que mon obsession sur les jeux à boucle temporelle allait servir un jour.
Ah! Pas mal, pas mal. Mais du coup, ça vous donne peut-être un petit indice sur le thème aussi.
Sur le thème.
Genre, ah, oh, c'est bon, j'ai compris du coup.
Non, moi j'ai pas compris. Oh, non. Ah non. Ah! Ok.
Du coup, est-ce que mon personnage réapparaît dans. Des suites, éventuellement?
Oui.
Donc, est-ce que je suis un jeu Sony?
Enfin,
est-ce que je suis un personnage issu d'un jeu Sony?
Non, ouais, c'est pas Sony. Okay.
Ça devient sombre. Est-ce que les jeux dont je suis issu sont jouables sur Nintendo? Enfin, sur des consoles Nintendo?
Ah, c'est une bonne question. Je vérifie.
Je crois pas, hein.
Je pense pas non plus.
Pas que je sache.
Non. Ah.
Ok, bon, c'est pas une exclu Nintendo, en somme toute. Est-ce que ces jeux ont moins de 5 ans?
L'origine, non. En effet.
Est-ce que j'ai déjà demandé si le jeu dans lequel j'apparais porte le nom de mon personnage?
Je crois que tu nous avais pas posé la question, mais...
Eh ben, je la pose maintenant. Non et non, très bien. Ah!
C'est à moi?
Ouais, je crois que c'est à toi, vu que du coup, Cassie a trouvé son personnage.
Je peux jouer pour les autres, après, pas de soucis.
Je crois que j'ai une idée sur le thème, mais j'ai pas de jeux qui me viennent.
N'hésite pas à donner des noms de thèmes hein, si tu as des suspicions.
Est-ce que mon personnage est lié à un jeu qui tourne autour de la question du temps?
Tout à fait.
Et est-ce que mon personnage a des pouvoirs liés au... Est-ce qu'il peut contrôler le temps, par exemple?
Oui.
Est-ce que mon personnage a un sidekick?
C'est-à-dire?
Bah, je vais la formuler autrement. Est-ce qu'il est seul? Ou est-ce qu'il a... Est-ce qu'il est...
Oui.
Ouais, ok, il est plutôt seul. Bah, je vais plutôt poser des questions sur les suites, ça va plutôt me m'aiguiller, je pense. Est-ce que mon personnage est réapparu sur PlayStation 4?
Pas officiellement.
Ok, je crois que je vois.
Est-ce que mon personnage est issu d'un jeu qui va fêter ses 10 ans cette année?
Pas encore.
Bah, si, hein.
Si.
Ah, oui, apparemment.
Ah, mais...
Si.
Est-ce que je suis Max Cofield de
oui,
la
tu es Max Cofield.
Non,
prouvé. Ok. Très bien. Bon, bah, du coup, moi...
Belle indice sur le thème, également.
Non, ouais, mais je...
Le thème aide.
C'est pour... Donc, du coup... J'avais posé la question sur le titre parce que les deux autres jeux qui me venaient un peu à l'esprit, c'était Prince of Persia et Alan Wake. Et donc du coup, si c'est pas ça, je suis assez perdue moi aussi. Est-ce que mon jeu est un shooter?
Non.
Oui, bah, je vais aussi me lancer sur les genres. Est-ce que mon jeu est un RPG?
Non, c'est pas ça. C'est pas sa caractéristique principale en tout cas.
Est-ce que mon jeu est en 2D?
Oui.
Ok. Enfin, oui. Ah. En 2D, vaguement humanoïde, homme, c'est un vieux jeu.
Enfin, vaguement.
Yes. Est-ce que c'est un jeu de puzzle?
Oui.
Ok, oui, bon, oui.
Ouais, il y a un peu de puzzle. Hein.
Ouais, ça va. Ça.
Je suis sûre que c'est évident et que je suis tellement complètement à côté de la plaque. Est-ce que c'est un jeu d'action-aventure?
Pas exactement. Bien qu'il y ait quelques éléments, mais c'est pas principalement son genre.
Bon, je vais faire une tentative. Est-ce que mon personnage apparaît dans Prince of Persia?
Non.
Non, ok.
Le personnage dans Braid, dont je connais pas le nom. Ah, mais c'est pas un jeu
oui.
de puzzle. Quoi?
Oui.
Ah bon, d'accord. Ah oui, il était un peu tordu, celui-là.
Oui. Oh, mais bravo, parce que tu as trouvé le titre, quand même, du jeu. Et,
Incroyable. Ok.
C'était vraiment pas le plus facile.
Yay.
Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi il veut pas venir.
Ton personnage veut venger quelqu'un, et ton jeu est aussi connu... Enfin, a aussi été adapté au cinéma.
C'est grave.
On peut te donner un indice si tu veux sur l'éditeur. C'est un éditeur qui est connu pour avoir fait un jeu qui est très 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 attendu.
Ah. Ah oui. Ok. Donc, est-ce que mon personnage apparaît dans... Attends, je dis pas de bêtises. Dans Max Payne?
Oui.
C'est ça?
Tout à fait.
Donc, enfin, j'ai le jeu. Et du coup, je ne connais pas le nom du personnage principal de Max Payne.
C'est dans le titre.
Ah, Max Payne, bah oui, d'accord.
Bah oui.
Exactement.
Donc je suis Max Payne. Finesse, merci, désolé pour la lenteur de...
Mais du coup, vous avez bien trouvé, et le thème, c'était le jeu avec le temps, la machine à remonter le temps, à voyager dans le temps. Voilà.
Bah, bravo tout le monde, on a réussi.
Bravo.
Merci pour les indices.
Merci Anna pour avoir organisé ce petit jeu du Qui suis-je. Merci à toutes et à tous pour avoir participé. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous remercions bien entendu toutes nos chroniqueurs et chroniqueuses. Nous remercions énormément Cassie d'avoir accepté de participer à l'émission en tant qu'invité. Et nous remercions aussi Vincent, toujours pour la programmation musicale. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, de partager nos publications sur les réseaux sociaux et de parler de nous autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur notre Ko-fi, cela nous permettra de continuer à produire nos programmes, notamment en payant les frais d'hébergement. Nous nous quittons sur Summer, Nature's Crescendo, composé par Eric Baron pour l'OST de Stardew Valley.